Morning Edition from NPR News.
Let's see, he's on the house. Hey,
I'm ready to go to Paris.
But we'll get to the radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est en Irlande du Nord que je vous emmène, qui vote aujourd'hui, élection locale comme dans le reste du Royaume-Uni, mais qui pourrait bien, pour la première fois de son histoire, donner ses voix au Sinn Féin, l'ancienne branche politique de l'IRA, partie aussi favorable à la réunification de l'Irlande. On verra si c'est une révolution ou un symbole. Le bruit du monde ce soir est au Japon. On va parler religion, présence de l'islam notamment. Vous verrez que les musulmans, vous l'imaginez, ne sont pas très nombreux au Japon, mais vous serez étonnés de voir combien et sur beaucoup de sujets l'islam et la culture japonaise font bon ménage. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Corinne Audouin a trouvé le fils de l'ex-dictateur Marcos aux Philippines qui marche dans les pas de son père, un train Maya à l'arrêt au Mexique et puis cette histoire de cavale en Alabama qui passionne l'Amérique. 18h50, l'Europe tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Boin avec cette question récurrente réapparue en même temps que le sixième train de sanctions, et si on revenait sur la règle de l'unanimité lors des votes européens. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et Lou qui s'en prend à Zelensky très violemment. Évidemment, ça n'est pas un hasard. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Agnès Maillot.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Dublin. Si les urnes, Agnès Maillot, disent la même chose que les sondages et que oui, le Sinn Féin remporte donc les élections locales en Irlande du Nord, on entend dire que c'est un séisme politique. Est-ce que c'est vraiment un séisme? Est-ce que c'est pas plutôt juste un symbole, un très gros symbole certes, mais juste un symbole?
J'ai envie de dire que c'est les deux. C'est effectivement un symbole, puisque ça serait la première fois depuis la création de l'Irlande du Nord, il y a 101 ans, qu'un parti nationaliste serait le premier parti de cet État. Après, c'est effectivement uniquement un symbole, puisque le Premier ministre et le vice-premier ministre ont des pouvoirs qui sont relativement égaux. Donc, il n'y aura pas de prise de pouvoir du Sinn Féin sur d'autres partis.
Chacun échange ses postes, en fait.
Voilà.
C'est tout, en fait. Le président devient vice-président et inversement, mais c'est à peu près tout, techniquement, on va dire.
Ils sont co-décisionnaires et de toute manière, ils sont obligés de gouverner ensemble dans une coalition de fait. Mais c'est aussi un séisme parce que ce que ça signifie, c'est le recul des partis unionistes et en particulier du DUP. Le Sinn Féin ne va pas nécessairement augmenter sa part des voix. En revanche, il sera dans une position de gouvernant en Irlande du Nord et il est le premier parti en République d'Irlande. Donc, dans ce sens-là, il est vrai que avoir ce parti qui prône la réunification, ce parti républicain qui domine la situation politique des deux côtés de l'île, c'est effectivement ça présage de changements importants dans les années à venir.
Alors, on a bien compris, d'ailleurs, en vous écoutant également, que le Sinn Féin ne gagne pas, c'est plutôt le DUP qui perd. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Absolument, absolument. Alors, selon ce que disent les sondages, le Sinn Féin reste à peu près à 26-27%, donc c'est ce qu'il avait obtenu en 2017. C'est le DUP qui recule de manière assez spectaculaire, puisqu'il descendrait à 20, voire même 18%, alors qu'il était à 28 il y a 5 ans. Donc ce recul du DUP s'explique par ses rivalités internes, les problèmes qu'il a connus au cours des deux dernières années au niveau de sa direction, la position qu'il a prise par rapport d'abord au backstop de Theresa May qui concernait la façon de gérer la sortie britannique de l'UE, et surtout la position qu'il a prise par rapport au protocole nord-irlandais, qui finalement est un sujet qui intéresse pas tant que ça les électeurs, même les électeurs unionistes.
Alors, il faut que vous nous l'expliquiez, effectivement, c'est vraiment le point d'achoppement, hein, c'est ce qu'on a réussi à négocier, ce protocole nord-irlandais après le Brexit, et l'idée, on va le dire de manière extrêmement simple, c'est même peut-être un peu simpliste, vous nous le direz, c'est tout simplement qu'il y a désormais un droit à payer en mer d'Irlande, et que l'Irlande du Nord, elle, considère au fond qu'on est en train de la détacher du Royaume-Uni. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et surtout, effectivement, qu'est-ce qu'elle dit, cette paralysie sur ces questions-là du DUP? Qu'est-ce qu'elle dit aux Irlandais? Qu'est-ce qu'elle dit à la gouvernance de l'Irlande du Nord?
Bah alors effectivement, ce que ce protocole a mis en œuvre, ce sont des contrôles qui s'effectuent pour tous les produits qui sortent du Royaume-Uni et qui arrivent en Irlande du Nord. Ces contrôles s'effectuent à leur arrivée en Irlande du Nord. Donc en fait, la frontière, elle n'est plus, elle est entre deux régions du Royaume-Uni. C'est ça qui déstabilise les unionistes, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne font plus tout à fait partie du Royaume-Uni à part égale avec avec les autres parties constituantes du Royaume-Uni. Ils se sont enferrés dans cette position. Ils n'ont pas grand-chose à proposer à cette question un petit peu inextricable depuis le référendum de 2016, et ils n'ont pas, en fait, ils ont choisi de miser sur Boris Johnson en 2019 parce qu'ils étaient fermement opposés aussi à la solution qui avait été trouvée par Theresa May, et en ce faisant, ils ont accepté, ils se sont retrouvés avec une situation qui était presque pire que celle que proposait Theresa May. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que le DUP est plus tout à fait en phase avec une bonne partie de l'électorat nord-irlandais, et en particulier les jeunes, puisque c'est un parti qui est relativement conservateur, qui est un petit peu en décalage sur les questions sociétales, et donc il n'arrive plus tellement à fédérer cette opinion unioniste, qui est divisée maintenant en trois. Avant, il y avait deux partis, maintenant il y en a trois, et le DUP est un petit peu en sandwich entre les plus radicaux sur sa droite et les plus modérés sur sa gauche.
Alors, on va y revenir effectivement à ce nouveau partage à trois. Je voudrais saluer Richard Place qui vient d'arriver. Bonsoir, Richard.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres, et vous en revenez d'Irlande du Nord. Sur ce qu'on vient d'évoquer avec Agnès Maillot, typiquement l'accord nord-irlandais, effectivement, est-ce qu'on entend vraiment parler de ça dans les rues à Derry ou ailleurs? J'imagine que pas tellement, non?
Pas tellement, en effet. C'est en tout cas pas le premier sujet qu'on aborde quand on évoque cette élection. Les premiers sujets qui viennent, ils sont finalement ceux que l'on entend un peu partout, qu'on peut entendre en France. C'est le pouvoir d'achat, c'est le prix de l'énergie, c'est les factures qui augmentent. Les Nord-Irlandais sont avant tout confrontés à ça, et c'est de ça dont ils veulent que les politiques leur parlent. C'est ce problème-là qu'ils veulent voir réglé. Alors, il faut être tout à fait honnête, le protocole, ça vient quand même dans la discussion. Quand vous allez parler, que ce soit avec les unionistes ou les nationalistes, ils en ont entendu parler de ce protocole, parce que ça fait des mois, des années qu'on en parle, et puis parce que depuis trois mois, ils n'ont plus de Premier ministre à cause du protocole. Le Premier ministre qui était du DUP a démissionné pour marquer sa désapprobation sur les négociations qui s'enlisent sur ce protocole qui est inapplicable. À peine d'ailleurs entré en vigueur, il a été retiré aussitôt pour des raisons... Alors on pensait qu'il pouvait... En tout cas, il y a eu des tensions sur le port de l'Arne, de là à penser qu'il y aurait pu y avoir des violences. Visiblement, ça a arrangé tout le monde de lever ce protocole qui, de toute façon, ne satisfait faisait personne et qui était quasi inapplicable. Donc oui, le protocole, on en parle, mais sans savoir précisément ce que c'est, on le voit comme quelque chose de flou, quelque chose d'inquiétant, parce qu'on ne sait pas vers où ça peut aller, et d'autant plus inquiétant qu'on a l'impression que les clés du camion ont été laissées à Boris Johnson, et là, que ce soit côté nationaliste ou unioniste, on est d'accord pour dire que c'est pas responsable.
Alors, moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez, Richard, c'est, au fond, à quoi elle ressemble, cette Irlande du Nord 2022 que vous avez un peu traversée? Parce que le sentiment que ça laisse, c'est ce que disait un peu Agnès Maillot, et on y reviendra, c'est que, au fond, ce qui secoue surtout l'Irlande aujourd'hui, c'est vieux parti, pas renouvelé, vieille coalition, c'est vieille politique, et c'est autre chose que veulent les Nord-Irlandais aujourd'hui.
Oui, c'est flagrant vraiment quand on parle, et en particulier avec les plus jeunes, cette séparation entre unionistes et nationalistes qui est même ancrée dans le fonctionnement de la politique nord-irlandaise, puisque quand il y a un premier ministre d'un bord, il doit y avoir un adjoint de l'autre bord et que les deux ont à peu près les mêmes pouvoirs. Eh bien, cette séparation-là, on sent bien qu'elle s'effrite, qu'on voit dans les quartiers unionistes comme dans les quartiers nationalistes, des gens qui, dans leur propre camp, commencent à faire des reproches à leur parti parce qu'ils ne voient plus seulement l'adversaire, les catholiques quand on est protestant et inversement. On ne voit plus la politique que par ce prisme-là. On a élargi un peu sa vision des choses. Et chez les plus jeunes notamment, ceux qui n'ont pas connu les heurts, ceux qui n'ont pas connu la lutte armée, eh bien on se tourne vers sa vie de tous les jours, vers le chômage, vers le coût de la vie, comme je vous le disais. Donc on réfléchit à tout ça et on se tourne plus volontiers vers cette troisième force qui est en train d'émerger, qui se décrit comme non sectaire, centriste, libérale, incarnée par le parti Alliance, dont une femme est à sa tête. Elle fait de très bons chiffres à l'est de Belfast et dans l'est de l'Irlande du Nord en particulier, mais elle vient grappiller des voix un peu partout, en particulier côté Sinn Féin, dont l'électorat également est jeune, puisque dans les intentions de vote, on voit que la grande masse de ces électeurs pourrait se trouver chez les moins de 35 ans. Mmh. Mais on sent bien qu'il y a un basculement en ce moment. Il est en train de se passer quelque chose dans la société nord-irlandaise qui va devoir sans doute faire bouger les institutions.
Vous allez revenir dans un tout petit instant, Richard. Agnès Maillot, effectivement, ce parti Alliance. Il faut rappeler quand même aux gens que les accords, les accords qui ont mis fin aux événements en Irlande du Nord, ça date de 1998, ça a 33 ans. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ne les ont même pas connus. Ce sont leurs parents qui les ont connus. Ce parti Alliance qui n'est ni vert, ni orange, ni unioniste, ni nationaliste. Au fond, est-ce qu'on se dit que c'est exactement la fenêtre qu'attendait une partie de l'électorat nord-irlandais coincé entre ces deux possibilités seulement depuis tellement d'années?
Mais en fait, le parti de l'Alliance, il existe depuis le début des années 70 et il présente des candidats à toutes les élections depuis ces années-là, mais il plafonnait à 7-8%. Mmh. Donc en fait, ce qu'on voit émerger, c'est effectivement cette troisième force, cette partie de l'électorat qui n'est plus binaire, qui n'est plus alignée, qui ne s'identifie plus à ces familles politiques qui sont le nationalisme et l'unionisme, et dont profite évidemment le parti de l'Alliance. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple le Sinn Féin qui a légèrement modifié sa stratégie électorale et son discours pour le centrer davantage sur les questions de société, sur le pouvoir d'achat effectivement, sur les droits des minorités, qu'elles soient les minorités ethniques ou les minorités sexuelles, donc qui essaye aussi de se présenter comme une alternative au passé et une alternative à cette espèce de binarité un peu sectaire qu'on a connue pendant toutes les années du conflit.
Mais jusqu'à quel point, Agnès Maillot, la montée du parti Alliance pourrait remettre en cause le système de coalition, donc cette espèce de d'hydre à deux têtes qui dirige l'Irlande du Nord? Est-ce qu'on commence même à en parler? Est-ce qu'on se dit qu'il faudra modifier ça, même à court terme?
Oui, on en parle parce que il est possible, par exemple, que au lendemain des résultats, on ait un parti majoritaire qui sera le Sinn Féin, enfin majoritaire qui est le plus grand nombre de voix, à 26-27%, et que le deuxième parti ne soit pas le DUP, mais soit le parti de l'Alliance. Auquel cas, théoriquement, c'est à eux que reviendra le poste de vice-premier ministre. Ce qui va évidemment chambouler cet arrangement qui a été conçu pour mettre terme à ces années de conflit et qui cherchait à partager le pouvoir de la façon la plus équitable possible entre les deux camps. Alors le parti de l'Alliance est représenté au gouvernement depuis un certain nombre d'années, mais il pourrait prendre une part bien plus importante dans les institutions, dans le fonctionnement et du gouvernement et du Parlement. Pour vous donner un exemple, tout ce qui est présenté au Parlement doit être voté par les deux côtés. Donc une majorité simple ne suffit pas. Donc si le parti de l'Alliance, qui n'est identifié ni aux nationalistes ni aux unionistes, devient une forte, une présence incontournable, effectivement ça va modifier la donne. Comment, on ne sait pas encore, mais certainement.
Alors j'allais vous demander, est-ce que ça réveille de vieilles querelles, si c'est effectivement ce qui se passe, ou est-ce qu'au contraire ça soulage une partie des électeurs nord-irlandais, au fond, qui de fait verront leur système exploser parce que c'est ce qu'ils ont décidé avec le vote? Est-ce qu'il y a un risque quand même que ça réveille de vieilles querelles?
Alors le vote de l'Alliance, non, puisque ce que ça manifeste, en fait, ce que ça traduit, c'est un changement démographique très important en Irlande du Nord qui devrait être confirmé par le recensement dont on aura les résultats dans quelques temps, qui est que de plus en plus de gens, encore une fois, ne sont ni l'un ni l'autre. Et donc ces gens-là ont trouvé une famille politique qui peut servir leurs espoirs et leur cause de façon moins sectaire et moins binaire. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que tous les partis, en particulier le Sinn Féin, cherchent aussi à faire des incursions dans cet électorat-là, puisque pour dépasser ce plafond de verre des 26% de voix, il va bien falloir qu'ils trouvent des électeurs chez cette masse de gens qui sont non alignés. Donc c'est pour ça qu'on voit un programme qui est bien plus social que constitutionnel. Ils se sont beaucoup moins intéressés à la question de la réunification, en dépit de ce qu'a voulu présenter le DUP, qui lui a un petit peu brandi le spectre de la réunification. l'unification si le Sinn Féin devient le premier parti d'Irlande du Nord.
On a même le sentiment que c'est sorti de la table. Enfin, je lisais un sondage récemment qui disait que de toute façon, si on sondait maintenant, il y aurait à peu près 30% des Nord-Irlandais qui souhaitent une réunification, ce qui est un chiffre assez dérisoire au fond. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, le Sinn Féin? Est-ce qu'ils s'assoient sur ce qui est censé être dans leur grande prérogative, ou est-ce que ils donnent une date qui est très très ultérieure et du coup le sujet n'est plus sur le tapis? Comment ça se passe?
Alors ça fait partie de leur proposition, et en fait la réunification c'est la raison d'être du Sinn Féin, donc ils n'ont pas du tout abandonné cet objectif. Par contre, ils l'ont mis un petit peu en sourdine pour cette élection en particulier. Mais ils ont une stratégie, dans la mesure où c'est le seul parti qui est organisé des deux côtés de l'île, et que en République, ils sont le principal parti d'opposition, et ils sont le premier parti politique d'Irlande, de République d'Irlande. Donc leur stratégie, c'est d'essayer de s'implanter des deux côtés de l'île et de créer une dynamique qui porterait la cause de la réunification. En République, on a beaucoup plus de gens qui se prononcent en faveur d'une réunification qu'en Irlande du Nord.
Une toute dernière question, Agnès Maillot. Est-ce que le passé bras politique de l'IRA pèse encore pour le Sinn Féin, ou est-ce que, là encore, 32, 33 ans ont passé, donc on ne leur en parle plus, on ne l'évoque plus? Est-ce que, jusqu'à quel point ça pèse encore?
Par moment, ça pèse, c'est pesant, parce que c'est un parti qui a été effectivement très lié à l'IRA et qui n'a jamais renié son passé, qui n'a jamais essayé de se dédouaner du soutien qu'il a apporté à l'IRA pendant toute la période du conflit. Et par moment, il y a des incidents, comme par exemple, il y a deux ans, un enterrement très très controversé d'un ancien chef de l'IRA auquel avaient participé les dirigeants, en contravention des restrictions liées au Covid-19. Donc, ça fait polémique, et c'est aussi instrumentalisé par leurs adversaires pour pointer du doigt un parti qui est quand même tout à fait particulier dans le paysage politique irlandais et européen.
On suit ces résultats, en tout cas, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Agnès Maillot. Je voudrais juste me tourner vers vous, 30 secondes, Richard Place, parce que je veux pas qu'on oublie non plus qu'il n'y a pas que l'Irlande du Nord, évidemment, qui vote, et que ce vote, d'une manière générale, dans le Royaume-Uni, a une très grande importance, a une vraie valeur de test pour Boris Johnson.
Oui, parce qu'il y a des élections locales, 4400 sièges environ de conseillers locaux qui vont être répartis dans 146 conseils à travers le pays, et j'inclus le Pays de Galles et l'Écosse dans ces votes-là. Il va y avoir également tous les arrondissements de Londres, et l'on sait déjà que les conservateurs vont perdre. C'est classique, parce qu'ils sont au pouvoir déjà depuis 3 ans, et donc avec l'usure du pouvoir, on perd des sièges. Mais il faut savoir quelle sera l'ampleur de la défaite, puisqu'évidemment ça va se transformer en référendum pour ou contre Boris Johnson, et sa position pourrait se retrouver encore fragilisée à cause du Partygate, bien sûr, parce qu'il n'arrive pas à gérer non plus la baisse du pouvoir d'achat dans son pays. Donc Boris Johnson, encore une fois sur le grill. Son parti estime que 350 sièges perdus seraient un résultat acceptable. On parle d'un nombre de sièges perdus qui pourrait monter jusqu'à 800, avec quelques arrondissements emblématiques comme Westminster, qui a toujours été conservateur. C'est là où se trouve le Parlement, c'est là où se trouvent les ministères également. Perdre cet arrondissement, ça ferait tâche, évidemment, pour Boris Johnson. Mais comme il n'y a personne à mettre à sa place, même s'il perd beaucoup, Boris Johnson est encore là pour l'instant.
Allez, merci beaucoup. Merci à Agnès Maillot, professeure à l'Université de Dublin. Merci à vous, Richard Place, de votre passage à tous les deux dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Japon. On va parler religion et présence musulmane au Japon. L'islam est très peu représenté, mais très sereinement installé aussi, vous verrez. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Corinne Audouin.
On ira aux Philippines, qui pourrait élire à la présidentielle le fils du dictateur Ferdinand Marcos, et il s'appelle Ferdinand Marcos Junior.
Allez, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Boin. Bonsoir à vous, Angélique.
Bonsoir, un sixième paquet de sanctions contre Moscou négocié en ce moment à 27 à Bruxelles. Faut-il mettre fin à la règle de l'unanimité? On s'est posé la question cette semaine à Strasbourg.
Et on verra ça ensemble. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Lula, contre-courant, l'ex-président brésilien et futur candidat, dénonce la responsabilité de Zelensky et des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Et son point de vue est assez partagé en Amérique latine.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait un petit détour du côté d'Atlanta avec Curtis Harding, Forevermore, sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
I can't keep my cool with you. I've been playing the fool, it's true.
bruit du monde ce soir est au Japon où de multiples croyances se côtoient, mais où la pratique religieuse est en fait assez peu exprimée. On dit que les Japonais naissent shintoïstes et meurent bouddhistes, mais entre-temps, ils côtoient des musulmans. Parfois, ils le deviennent. Le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
Un vendredi, en plein mois de Ramadan, à Tokyo. Nous sommes à la mosquée Jami, la plus importante du Japon. C'est l'heure de la prière. Ici officie un imam turc, Mohamed Lifat Sinar, qui trouve le Japon plutôt accueillant pour les musulmans.
Le Japon est facile à vivre pour les musulmans. Bien sûr, quand on vit dans un autre pays que le sien, on rencontre quelques difficultés et affronte des différences. Mais de façon générale, les musulmans vivent bien ici.
Les musulmans au Japon sont une petite minorité discrète qui représente 0,5% de la population. Il n'y a pas de statistiques officielles, juste des estimations. Mais alors qu'ils n'étaient que quelques centaines à l'aube des années 50, leur nombre a augmenté avec une plus grande ouverture à l'immigration. Les musulmans de nationalité japonaise, eux, sont encore plus rares. Ahmad Abul Hakim Maeno en est un. Il est imam et responsable de l'Association des musulmans du Japon.
Il y a environ 200 000 musulmans au Japon, parmi lesquels 43 000 japonais, ou disons plutôt des personnes ayant la nationalité japonaise, car ils n'ont pas tous le faciès japonais. La motivation pour la conversion est souvent liée à un mariage avec une personne de confession musulmane. Cette raison concerne probablement environ 90% des cas. Il y a aussi de plus en plus de japonais qui se convertissent de leur propre initiative. Mais le mariage avec un étranger musulman reste prépondérant. Les femmes dans ce cas sont largement majoritaires.
Même si les musulmans font très peu parler d'eux au Japon, on perçoit néanmoins chez les Japonais une crainte envers l'islam.
Pour de nombreux Japonais, l'islam et les musulmans sont un terrain totalement inconnu. Ou bien à cause des médias, une religion dangereuse. J'ai l'impression que la vision est divisée entre ces deux extrêmes.
Cela ne se transforme cependant pas en attitude discriminatoire envers les musulmans, selon les intéressés.
Il n'y a pas d'incident lié au fait qu'une personne soit musulmane. Au Japon, la relation avec les autres n'est pas fonction de la religion. En Europe, s'est développée une sorte d'islamophobie, mais il n'y a rien de tel ici au Japon.
Peu de gens affichent leur religion au Japon, mais il n'est pas interdit de le faire. Au tribunal de Tokyo, par exemple, l'avocate japonaise Junko Hayashi, convertie à l'islam, plaide avec son foulard sans que cela pose problème.
La loi japonaise, de par la constitution, garantit la liberté de religion.
Mais beaucoup de femmes japonaises musulmanes ne portent cette hijab qu'à la mosquée. En fait, conscients d'être minoritaires, nombre de musulmans au Japon adaptent leur apparence et leur attitude au cadre de vie et à la société japonaise.
Quand on est à l'extérieur que vient l'heure de la prière, il faut la faire. Tout lieu propre convient pour cela, mais auparavant, il faut se laver les mains et les pieds, et il arrive que cela surprenne. Mais il suffit d'expliquer.
Au départ, je pensais qu'être musulman au Japon rendait la vie dure. Mais avec l'expérience, je me rends compte que le seul frein concerne la communication avec son entourage professionnel. Comment bien expliquer à son patron, à son supérieur, les besoins qu'entraîne cette religion? Si par hasard, une entreprise vraiment archi-véreuse interdisait à un salarié musulman de faire sa prière, il serait en droit de la poursuivre en justice.
Reste un problème, surtout souligné par les musulmans étrangers, la nourriture.
Sur le plan alimentaire, c'est assez dur. Trouver de la nourriture halal est très compliqué, parce que ce concept n'est pas développé au Japon. Ce n'est que récemment qu'il a commencé à apparaître.
In fine, le plus étonnant pour les musulmans au Japon, c'est de constater les similarités entre l'islam et la culture japonaise.
Il y a beaucoup de points communs. La morale est importante dans les deux cas, la discipline, le fait de payer ses dettes.
Devenir musulman, ce n'est pas devenir étrangère à la société japonaise. Au contraire, les valeurs que le Japon considère traditionnellement comme bonnes sont les mêmes que celles que l'on retrouve dans l'islam. L'importance de la famille, l'ardeur au travail.
Insister sur les convergences entre la culture nippone et l'islam est jugé d'autant plus essentiel pour les musulmans que leur nombre au Japon va nécessairement augmenter dans les décennies à venir en raison de l'obligation pour le pays d'ouvrir davantage ses frontières à des travailleurs étrangers.
Karine Nishimura au Japon pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Karine. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Corinne Audouin.
Bon bon Marcos Po, numéro 7, Salvador.
Et c'est d'abord aux Philippines que nous allons, Corinne, sur sa page Facebook. Bonbon Marcos appelle les électeurs à voter pour lui à l'élection présidentielle.
Et son vrai nom, c'est Ferdinand Marcos Jr. Ça vous dit quelque chose? Normal. C'est le fils de l'ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos et de la non moins célèbre Imelda Marcos, connue notamment pour ses milliers de paires de chaussures de luxe. À 64 ans, Marcos Jr. est largement favori de la présidentielle. On vote lundi prochain aux Philippines, 36 ans après la chute de la dictature de son père. Le candidat a œuvré à réhabiliter le régime, deux décennies qu'il décrit aujourd'hui comme un âge d'or, une période de paix, de prospérité, en occultant juste la répression sanglante, la corruption et la mauvaise gestion qui ont considérablement appauvri les Philippines. Après le renversement de la dictature par un soulèvement populaire en 86, l'exil aux États-Unis, la mort de l'ex-dictateur à Hawaï en 89, le clan Marcos est revenu aux Philippines et a commencé son irrésistible retour.
La fantasque Imelda Marcos ouvre même un musée dédié aux quelques 200 paires de chaussures qu'il lui reste. Et quand l'État saisit ses bijoux et la laisse ruiner, elle n'hésite pas à l'accuser de malhonnêteté. Toutes ces belles choses ont été collectionnées par quelqu'un qui aime la beauté. Et vous osez la persécuter ?
Voilà Imelda Marcos en 2018 dans ce reportage de France 24 où elle 2018 où elle était condamnée pour corruption, mais elle est restée libre en attendant son procès en appel. Elle a aujourd'hui 92 ans. On estime que pendant la dictature, le clan Marcos a détourné 10 milliards de dollars des caisses de l'État. La commission présidentielle sur la bonne gouvernance créée après la chute de la dictature a réussi à en récupérer la moitié. Mais si Bong Bong Marcos est élu, la commission sera sous sa tutelle. C'est un petit peu le renard qui garde le poulailler, s'alarme les ONG, qui redoutent évidemment le classement des dizaines d'actions en justice encore en cours.
En Alabama, Corinne, c'est une cavale qui tient l'Amérique en haleine.
Elle s'appelle Vicky White, elle a 56 ans, de longs cheveux blonds. Sur les vidéos de la prison de Florence, dans le sud des États-Unis, on voit cette fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ouvrir la porte à Cassie White. Alors, ils s'appellent White tous les deux, mais aucun lien de famille. Lui, il a 38 ans, il mesure 2,06 m, en tenue de prisonnier orange, menottes au poignet. Elle le fait ensuite monter dans sa voiture de police. Alors, jusque-là, rien d'anormal, puisque Vicky White s'occupe des transferts de détenus. Sauf qu'il n'y avait pas de rendez-vous au tribunal ce jour-là. Ils ont disparu dans la nature depuis maintenant 7 jours.
Officials now confirming a special relationship between the two who've been on the run for 5 days now.
Alors ces deux-là sont-ils amoureux? C'est la thèse de la police. La fonctionnaire est décrite comme une employée modèle, la personne la plus fiable de la prison. Elle avait rencontré Cassie White en 2020, il purgeait une peine de 75 ans de prison, notamment pour tentative de meurtre et il est également accusé de meurtre. Les autres prisonniers avaient remarqué qu'il avait droit à un traitement de faveur de la part de Vicky, notamment du rab à la cantine. Et aujourd'hui les proches de Vicky s'inquiète. Cassie est très dangereux, confie son ex-petite amie. Elle conseille à Vicky White, si tu es encore en vie, fous le camp.
Eh ben, dites-moi, en train peut-être alors, puisque nous partons pour le Yucatan au Mexique pour terminer, où le chantier du train Maya est à l'arrêt.
Sur les images tournées par l'agence France Presse, on voit une large tranchée qui saigne le milieu de la forêt et des bulldozers à l'arrêt. Ce train touristique, c'est le grand chantier du président Obrador pour désenclaver le Yucatan, cette région du sud-est du Mexique. Mais le problème, c'est qu'en dessous se déploie tout un réseau souterrain de puits préhispaniques. Des activistes et des spéléologues ont obtenu en justice l'arrêt du chantier pour sauver ce réseau de cours d'eau souterrain. Alors il y a des grottes, des rivières, des puits d'eau douce à l'eau cristalline, alors c'est très beau, mais en plus ce sous-sol, c'est le royaume des dieux de la mort et de la maladie. Dans les croyances mayas, ce serait la voie de passage vers l'inframonde.
La solution est très simple.
Et cet activiste explique que la solution est simple, il faut faire passer le train ailleurs, pas dans la forêt, un train qui desserve les villes, qui soit utile aux touristes comme aux travailleurs, dit-il, et qui surtout ne risque pas de réveiller les esprits des Mayas.
Bah oui, moi l'inframonde, personnellement ça me fait peur. Merci beaucoup Corinne.
On va rester à la surface.
S'il vous plaît, ouais, à bientôt. Vous partez magnifiquement accompagnée avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Ntne Rini, c'est sur France Inter et c'est dans Un jour dans le monde. Yolo jana ale maso segima. Fatoumata Diawara sur France Inter. À la direction Bruxelles, à la demande générale.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union générale.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec vous, Angélique Boin, comme chaque jeudi, à Bruxelles, où se négocie depuis hier, entre les représentants des 27 États, Angélique, le fameux sixième paquet de sanctions contre Moscou, dans la douleur, parce qu'il faut l'unanimité, une règle qui est de plus en plus contestée, à commencer d'ailleurs par le Parlement européen.
Oui, il faut mettre un terme à cette règle qui s'applique, on le rappelle, à certains domaines comme le social, la fiscalité et les affaires étrangères. C'est ce que souhaite une majorité d'eurodéputés. Ils l'ont dit dans une résolution adoptée cette semaine. Mais c'est également l'avis du Premier ministre italien Mario Draghi, venu leur rendre une visite. C'était mardi dernier à Strasbourg. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention.
C'est maintenant le moment de faire avancer l'Europe. Le 9 mai, la conférence sur l'avenir de l'Europe prendra fin et la déclaration finale nous demande de faire preuve de plus d'ambition. Nous devons dépasser le principe de l'unanimité parce que cela entraîne des vétos en réunion intergouvernementale et nous devons passer à une majorité qualifiée. Une Europe capable de décider plus rapidement serait une Europe plus crédible face aux citoyens et face au monde.
Et alors on en parle autant, Angélique, parce que c'est l'une des recommandations de cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Europe.
Oui, alors on peut peut-être commencer par rappeler ce que c'est que cette vaste consultation citoyenne passée, on peut le dire Fabienne, sous les radars médiatiques, et dont le rapport final sera donc remis à Strasbourg lundi prochain à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et au président français Emmanuel Macron. Alors la COFOE, c'est son petit nom ici dans la bulle européenne, un nouvel acronyme comme vous les aimez pour votre collection Fabienne. La COFOE, eh bien c'est cette réflexion collective lancée il y a un an tout juste dans toute l'Union pour faire des propositions de réforme. Forme sans tabou, nous a-t-on promis. Il y a eu des consultations nationales, un panel de 800 citoyens tirés au sort dans les 27 États. Ils ont réfléchi, lors de plusieurs sessions de travail, à ce qu'il faut changer pour simplifier le fonctionnement de l'Union, la rendre plus démocratique, plus transparente. Alors, dans leur rapport final, adopté par le Parlement, 49 propositions sont retenues, certaines très concrètes, octroyer par exemple aux eurodéputés le pouvoir de proposer des lois. Aujourd'hui, c'est une compétence exclusive de la Commission. Il y a aussi la volonté de renforcer les politiques communes, dans le domaine par exemple de l'énergie, de la défense, ou de la santé, et puis de faire sauter donc la règle de l'unanimité pour éviter par exemple qu'un ou deux pays comme aujourd'hui la Hongrie ou la Slovaquie ne fassent durer les négociations sur la riposte à Moscou, ne fassent valoir en fait des intérêts personnels au détriment de l'intérêt collectif.
Mais alors sauf que tout le monde n'est pas d'accord évidemment.
Non, il y a des voix discordantes. Certains parlementaires font remarquer que l'unanimité dans le domaine des affaires étrangères en particulier a un avantage, car ça oblige à tout faire pour trouver un compromis, ça pousse à avancer collectivement. Dans le cas de la guerre en Ukraine, on peut certes trouver très long ce processus pour accoucher de sanctions, mais à chaque fois, eh bien, il y a au final une décision commune, un front uni, et cela a un vrai poids face à Vladimir Poutine. Mais cette unanimité, elle bloque par ailleurs des réformes jugées importante, notamment dans le domaine de la fiscalité, pour ceux qui veulent plus d'Europe, plus de politiques communes et qui pèsent assez lourd à la table du Conseil européen. Je pense à la France, avec son président réélu, à l'Italie, on vient de l'entendre, à l'Allemagne, qui dans son accord de coalition s'engage à plus de fédéralisme. Alors on verra lundi à Strasbourg si Emmanuel Macron est prêt à mettre en œuvre certaines recommandations des citoyens, dont celle-ci sur l'unanimité. À noter, c'est important qu'il s'exprimera sans doute en son nom, mais aussi, et surtout parce que c'est au titre de la présidence française du Conseil de l'UE qu'il a été invité, au nom des 27 États membres.
Voilà, et on suivra ça, évidemment, c'est lundi prochain. Merci beaucoup, Angélique Boin, avec nous depuis Bruxelles. Jean-Marc Fourella, il nous attend.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après Jean-Marc Four, ça s'appelle une interview qui déménage. Dans un entretien au magazine Time, Lula, l'ex-président brésilien, à nouveau candidat, critique vertement le président ukrainien Zelensky et les Occidentaux. Il les juge en partie responsables de la guerre en Ukraine. Cette prise de position à contre-courant du discours dominant en Europe ne doit rien au hasard, dites-vous. Elle est même très partagée en Amérique latine. C'est votre monde d'après.
Oui, vous savez, parfois on monte en épingle des petites phrases d'hommes politiques en les exagérant ou en les sortant de leur contexte. Rien de tel en l'occurrence. Lula a accordé un très long entretien qui fait d'ailleurs la une de Time et un bon tiers de l'interview est consacré à l'Ukraine. Le propos de l'ex-président brésilien est argumenté, développé et ça secoue le cocotier. Vous avez raison parce que Lula prend le contre-pied de l'image d'un Zelensky devenu une icône de la résistance légitime à l'invasion russe. La charge est violente. Ce type, dit Lula à propos de Zelensky, est aussi responsable de la guerre que Poutine. Allez, tiens, on va le tenter en portugais. Você é bom artista, você é bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer. Traduction. Vous êtes un bon artiste, un bon humoriste, il fait allusion au passé de showman à la télévision de Zelensky, mais on ne fait pas la guerre pour que vous fassiez le spectacle. Vous feriez mieux de négocier avec Poutine, continue Lula, qui reproche au président ukrainien de passer son temps à l'écran matin, midi et soir. L'attaque en règle vise aussi les Occidentaux. Lula dénonce la responsabilité des États-Unis et de l'Union européenne. Vous auriez dû dire tout de suite, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, il n'y aurait pas eu la guerre. Biden, conclut Lula, aurait dû aller voir Poutine à Moscou. C'est ce qu'on attend d'un leader. Bref, l'ancien président brésilien adopte presque le point de vue de la Russie.
Et donc, Jean-Marc, c'est vraiment pas un dérapage, hein. Donc, comment on explique cette prise de position?
En fait, le point de vue de Lula n'est pas isolé, hein. Il est même représentatif du regard porté sur le conflit par une grande partie du monde non occidental. On l'a d'ailleurs déjà souligné ici, à part les Occidentaux, presque personne n'a adopté de sanctions contre la Russie. En Amérique latine en particulier, les dirigeants de gauche sont très réticents à critiquer Moscou. La seule exception notable, c'est le jeune président chilien Gabriel Boric qui n'a pas hésité à condamner l'agression. Juste après l'invasion, un tweet de sénateur du PT, le parti de Lula, affirmait même « La politique impérialiste et agressive des États-Unis envers la Russie explique le conflit ». Bon, le tweet a été retiré depuis, mais tout de même. Au sein des gauches latino-américaines, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Bolivie, au Venezuela, la Russie conserve une image assez positive et héritée en fait de la période communiste où Moscou se voulait l'allié du tiers-monde, comme on l'appelait alors. C'est pas un soutien à Poutine, l'homme fort, hein, ça c'est plutôt l'apanage des mouvements d'extrême droite. Non, c'est une fidélité à l'ancien phare du socialisme. Et surtout, les gauches latino-américaines demeurent d'une méfiance absolue vis-à-vis de Washington et donc de l'OTAN perçue comme son bras armé. Les cicatrices liées au soutien passé des États-Unis aux dictatures militaires en Amérique du Sud ne sont pas refermées et de nombreux dirigeants, dont Lula d'ailleurs dans cette interview, rappellent l'illégitimité de l'intervention américaine en Irak. Ce réflexe anti-Washington conduit aujourd'hui à voir l'OTAN comme responsable du conflit en Ukraine.
Et en plus, Jean-Marc, Lula est en campagne.
Alors ça, c'est l'autre explication de cette prise de position tranchée. En fait, l'ancien président, désormais débarrassé, vous le savez, de ses soucis judiciaires, va se lancer officiellement après-demain, lors d'un grand meeting à Sao Paulo. Il va redevenir candidat en vue de l'élection prévue le 2 octobre. Et il est grand temps qu'il se lance parce que son rival, l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, fait feu de tout bois. Voilà encore 2 mois, les sondages donnaient 18 points d'avance à Lula. Il n'y a plus aujourd'hui que 5 points d'écart, 40-35 dans les dernières enquêtes. Lula est même devancé par son adversaire dans les grandes villes du Sud comme Sao Paulo. Bolsonaro, lui, est déjà en campagne, il multiplie les apparitions publiques, il courtise l'électorat populaire en débloquant des aides sociales à fond perdu, tout en misant sur l'effet repoussoir déclenché par Lula auprès d'une partie des couches les plus aisées, voire des classes moyennes, auprès de l'armée, des milieux de l'agroalimentaire, des églises évangéliques. Et ça marche, hein, l'écart se réduit. À moins de 5 mois de ce scrutin qui s'annonce vraiment explosif, Lula doit reprendre la main, donc il a recours aux valeurs sûres. Rien de tel qu'un peu d'anti-américanisme pour ressouder l'électorat de gauche. Vu du Brésil, la guerre en Ukraine, c'est loin, mais c'est un instrument électoral à fort potentiel.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20, ça continue comme chaque soir avec le journal d'Hélène Philly, juste après le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. À tout de suite.